Les livres ont la parole, une émission mensuelle chaque deuxième mercredi du mois de 16h30 à 18h. On y parle de livres et de ceux qui font les livres, auteurs, imprimeurs, éditeurs, libraires, lecteurs. Une émission proposée, préparée et présentée par Jean Darroux sur Fréquence Mistral. Et c'est tout de suite. Bonjour Jean.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on vient d'entendre la voix de Marie Lebelic, qu'on va un petit peu, je dirais, triturer aujourd'hui, parce qu'elle est venue avec son livre qui s'appelle « Le large pour les poubelles ». Donc, elle est auteure et dans la collection « Main de femme » aux éditions Parole. Voilà, donc un petit roman qui commence un petit peu loin d'ici et qui nous amène jusqu'en dans la région. Alors, bonjour Marie.
Bonjour.
Alors, je me demande toujours... pourquoi les gens se mettent à écrire des choses, des livres, et arrivent comme ça avec leur livre en avant, un peu comme un étendard ou bien une lance. Qu'est-ce qui vous a pris de... Alors, on dit toujours, oui, mais j'écris depuis mon enfance. C'est vrai, ça?
C'est vrai. J'écris depuis mon enfance. J'ai écrit mon premier livre à 6 ans qui s'appelait « Sourisette est perdue ».
Oui,
et alors qui avait été mis en valeur par ma mère. Et puis ensuite, j'ai beaucoup écrit à l'adolescence, j'ai beaucoup écrit de journaux intimes que personne n'a jamais lus.
Bon, ça viendra.
Je ne sais pas. Ça reste top secret. Non, et puis petit à petit, le désir s'est fait d'écrire sur autre chose que moi, en fait. Voilà. Et pour réussir à toucher les autres et à parler du monde.
D'accord.
Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai essayé d'écrire diverses choses, des albums pour enfants, des textes pour la jeunesse, des nouvelles pour adultes, et puis ce récit-là qui est mon récit le plus long et le plus abouti, puisque...
Alors est-ce que c'était une nécessité, un besoin d'écrire ? Parce que bon, au départ, vous écrivez des choses intimes, pour un peu libérer peut-être des difficultés, des souffrances, ou bien au contraire des bonheurs, des rencontres, je ne sais pas. Et après, donc vous dites, j'ai voulu écrire quelque chose de différent, parler du monde.
Je dirais que le principe reste le même, le bénéfice reste le même. Ça me fait du bien d'écrire, ça fait du bien de raconter, d'inventer, et de pouvoir ouvrir ça, et puis vraiment raconter une vraie histoire. C'est encore plus magique.
Oui. Alors, ouais. On écrit, quand on écrit, raconter une histoire, on écrit pour un lecteur, on pense à quelqu'un. Tout à l'heure, vous disiez, j'ai commencé à écrire des livres pour les enfants. Vous êtes institutrice, donc peut-être que c'est quelque chose qui vous a motivé aussi, le fait d'avoir autour de vous, d'avoir des enfants vous-même, mais aussi de vous occuper d'enfants.
Bien sûr, oui. Ouais. C'est le livre... reste un monde à offrir, et aux enfants en particulier dès le plus jeune âge. Ça j'y crois.
Oui, mais vous apprenez à lire et à écrire aux
enfants.
Non,
j'ai des plus jeunes, moi.
Des plus jeunes.
Moi, je suis la première maîtresse, celle de la D'accord. petite section dont on ne se souvient pas,
oui,
mais qui, je pense, a une importance.
Oui, mais on leur lit, en même temps, vous leur lisez des histoires.
Et je lis beaucoup d'histoires, et oui, je suis passionnée par ça. Hein. Pouvoir offrir ce monde-là aux enfants petits, et sachant qu'ils sont très demandeurs de ça. Et ça marche toujours.
Ça marche toujours,
ouais,
oui.
Ça marche toujours.
Et puis, ils finissent par connaître les histoires. Souvent, ils veulent qu'on leur raconte plusieurs fois la même histoire, et ils la connaissent par cœur. Moi, je m'amuse aussi de temps en temps avec des petits, mes petits-enfants en particulier. Donc, ils m'apportent un livre en me disant, bah, tiens, tu nous lis ça. Alors, je leur lis. Et de temps en temps, je change. Je raconte une bêtise, je rajoute une bêtise, il m'arrête immédiatement, mais non, c'est pas ça.
Oui, c'est ça, ils sont assez vite capables de raconter eux-mêmes.
Voilà. Alors, est-ce qu'avec les grands, c'est la même chose, d'après vous, les adultes ? Est-ce
avec
qu'ils aiment qu'on leur raconte des histoires aussi ?
Eh bien, je pense qu'on ne devrait pas arrêter de raconter des histoires. Ouais. C'est pas parce qu'on apprend à lire et qu'on sait lire qu'on n'a plus le droit d'avoir des histoires. Et je crois que ce plaisir-là, il faut réussir à le faire durer le plus longtemps possible, jusqu'à l'âge adulte.
Et donc, vous avez écrit disiez, j'ai écrit des choses plus courtes et j'ai écrit un livre plus long pour raconter aussi des histoires. Parce que je vais en lire un petit bout, parce que vous partez de loin hein, dans cette histoire. L'héroïne vient d'un petit peu loin. Je lis un petit bout. Elle s'est retrouvée à errer dans les rues de Copenhague. Au hasard, au début, un peu comme si ses jambes faisaient leur vie toute sans elle. Et puis elle s'est dirigée vers le port, a suivi la promenade de la Langelinie pour finir devant la statue de la petite sirène. Elle a contemplé un moment ses yeux vides, son regard absent, absurdement dirigé vers les éoliennes. Elle en a subi des pertes et des outrages, la petite sirène. Tomber amoureuse, perdre sa voix, perdre son père, ses sœurs, marcher sur des lames de couteau, perdre son amour, mourir écume, et une fois statue, ce ne fut pas fini. Tête sciée, bras droit retiré, coupé sur 18 cm dans le cou, décapité et même dynamité il y a 3 ans de cela. Nastia connaît tout ça par cœur. Sa vie, à côté, c'est de la rigolade. Elle ne serait pas médecin. La première partie du concours se déroulait en ce moment même et elle n'y était plus. Elle ne serait pas médecin, mais cela n'avait pas d'importance. L'importance, c'était de n'être pas devenue folle. L'important était de se sentir vivante. Elle est restée longtemps là, dans le matin gris, sous un ciel éteint, en comprenant ce qui lui arrivait. C'était bizarre cette sensation, comme un énorme bloc de liberté qui lui tombait dessus. Une pluie de possibles et pourtant une étrange sensation de vide à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc votre héroïne, elle est à Copenhague et puis elle était en train de passer un examen et puis elle décide de tout larguer. Et d'aller voir la petite sirène comme ça, et puis de se sentir libre, de partir. Alors, vous avez un lien particulier avec le Danemark, ou c'est comme c'est devenu comme ça ?
Et non, pas tellement. C'est juste que j'ai fait une petite incursion de quelques jours, il y a presque 10 ans de cela. Et c'était des jours sombres, puisque c'était début janvier et que la nuit tombait à 15h. Mmh. Et donc on était partis tous les deux en se disant « on va jusqu'au Danemark ». C'était un peu comme un rêve. Mmh. Et on est arrivé jusqu'au Danemark. Donc dans l'après-midi, il faisait déjà nuit. On avait marché le long d'un sentier au bord de la Baltique. Et puis, oui, je me suis dit... Je suis naturellement partie de là parce que j'ai l'impression que c'est un pays qui peut raconter des histoires.
D'accord.
Voilà, mais je ne le connais pas plus que ça. J'aimerais le connaître davantage un jour.
Mm-hmm. Mm. Donc l'histoire est partie de là.
Elle est partie de là et c'est pour ça qu'il se passe très peu de choses finalement au Danemark. C'est parce que je n'étais pas en mesure d'en raconter plus.
Et donc cette jeune fille est au Danemark et puis elle va atterrir à Marseille.
Voilà, ouais. Je la fais vite venir dans des,
oui, oui. En
dans
pays
des
connu,
lieux plus sûrs. Ouais.
Oui. Mm. Alors, l'idée, c'était quoi qu'est-ce que vous aviez envie de raconter comme histoire aux adultes ?
Alors, enfin,
c'est pas spécialement... je trouve que c'est un livre qui est intéressant parce que c'est pas un livre, on va dire, pour vieux. Hein. Je trouve que c'est un livre assez intéressant pour toutes sortes d'âges, y compris des jeunes, parce que c'est un livre qui a une certaine fraîcheur. Voilà, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que vous vouliez raconter ?
Alors, je voulais raconter... Une vraie aventure, une aventure qui se passe aujourd'hui, qui se passe pour une jeune fille. Et qui, donc on est presque parfois dans le conte. Mmh. Il y a des personnages qui gravitent
oui.
autour, qui sont bienveillants ou moins bienveillants. Et puis il y a vraiment un parcours initiatique, il y a un cheminement, il y a des fuites, il y a des enlèvements, il y a de la débrouillardise, il y a une aventure dans le monde d'aujourd'hui. Et en fait, l'aventure est toujours possible.
Oui.
Elle peut être vécue et voilà, on peut se débrouiller avec rien. On peut décider de partir du jour au lendemain. Et ça, ça existe. Mmh. Voilà. Donc ça, d'une part. D'autre part, c'est une jeune fille qui est à la recherche de ses origines, puisqu'elle a été adoptée. Mmh. Et donc, elle a une vie normale à partir du moment où elle est adoptée par des parents aimants, des parents donc au Danemark, qui vont lui offrir tout ce dont elle a besoin. Et tout va bien se passer pour elle. Elle va être
oui,
dans les rails, en fait.
Des études
elle
pas...
a son bac, elle
oui.
fait des études, elle veut être médecin.
Oui.
On apprend qu'elle est plutôt brillante. Elle n'a pas de difficultés pour apprendre les langues étrangères, notamment. Mais à un moment donné, il y a une urgence. Il y a quelque chose qui la rattrape, où elle se dit que sa vie, à elle, elle ne peut pas se résumer à ça. mais que justement il y a un problème à résoudre. Mmh. Il faut fouiller, il faut aller voir justement dans son histoire, essayer de comprendre quelles sont les blessures secrètes. Voilà, elle commence par le livre commence par ce passage là où elle a l'impression qu'elle va devenir folle. Mmh. Et ça va lui faire très peur en fait. Elle va se rendre compte que l'urgence elle est là, ce qu'elle doit vivre là maintenant, c'est en savoir plus.
Mmh. Voilà. Oui, ben, ce gros bloc de liberté.
Voilà, elle a envie de découvrir. Possible. Oui, c'est possible. Possible en fait.
Voilà, tout voilà. Est possible. Donc elle part, hein, elle quitte Copenhague et elle s'en va comme ça, un petit peu au hasard, mais elle a quand même un point de chute hein, sur Marseille, puisque enfin, grâce, on est dans la vie moderne, grâce à Internet et aux mails, elle a retrouvé un membre présumé de sa famille.
Un cousin russe qui vit à Marseille et qui va lui donner rendez-vous dans cette ville. Donc elle va préparer son voyage un petit peu quand même et elle va débarquer à Marseille hein, dès les premières pages pour aller à la rencontre de ce cousin. Et puis il se trouve que le cousin n'est pas sur le quai.
Voilà.
Mais allez. Que sa vie à elle, elle est quand même là et oui. Qu'elle va vivre quand même des choses.
Mmh. Donc elle se retrouve un petit peu complètement perdue là, dans un pays qu'elle ne connaît pas. Et elle va se débrouiller, vous parliez de débrouillardise, bon, voilà, cette espèce d'aventure comme ça, un peu SDF, un peu à squatter un milieu qui est proche du sien, parce qu'elle va squatter un peu le milieu étudiant hein, dans une université. Et le monde va s'ouvrir. Hein, à elle, c'est assez... Alors, il y a plein de choses, on ne va pas raconter tout, mais c'est assez sympa parce qu'on se rend compte voilà, qu'elle est capable, même dans des conditions un peu difficiles, on peut se débrouiller, on peut arriver à trouver à la fois des ressources et des appuis.
Oui.
Donc c'était, l'idée aussi, c'était ça, c'était de montrer qu'on peut aussi s'en sortir quand on le souhaite. Et quand on a la volonté, quand on cherche quelque chose, la liberté en particulier.
Oui, elle est animée par tout ça, et puis elle a de la chance. Elle tombe à Lumini, donc c'est un campus universitaire que j'ai connu, moi, il y a une quinzaine d'années, et dans lequel tout ce que je raconte était possible.
Oui.
Voilà. Aujourd'hui, peut-être que les choses ont changé, peut-être qu'il y a des barrières, qu'il y a des contrôles, et que les portes sont fermées, je ne sais pas. Mais à l'époque, je pense que tout ce que je raconte et qui se passe l'été, c'est important aussi,
oui, hein, oui,
on
ne
va
oui,
pas
oui.
mourir de froid. L'été oui, à Marseille, bon, il y a la mer,
oui.
Oui. Et donc tout cela, ça, c'est possible, c'est vraisemblable.
D'accord.
Dans ce cas particulier-là.
Voilà. Donc, alors, et vous disiez tout à l'heure, c'est la première fois que j'écris aussi long, parce que vous étiez plutôt dans des textes courts, poésie, petites nouvelles, etc. Et là, vous aviez envie de faire un livre complet pour expliquer toute cette histoire.
En fait, j'ai écrit la première partie, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être les 50 premières pages là, par rapport au format du livre, ça doit être à peu près ça. En rentrant d'un week-end à Marseille il y a 10 ans. Presque d'une traite.
Ouais.
Voilà. Et le texte n'était pas exactement celui-là. Et il était un peu moins clair, un peu plus poétique, un peu plus embrouillé. Mais j'avais passé quelques heures à écrire ça, sous le coup de l'émotion, je dirais. Et puis j'avais laissé ça de côté. J'ai essayé d'écrire d'autres choses. Et je l'ai repris il y a quelques années, je suis retombée dessus, j'ai relu, et je me suis dit, mais c'était comme un défi, il fallait que je finisse cette histoire et que j'arrive au bout. Voilà, il fallait que j'ai réussi à raconter cette histoire, à l'inventer.
D'accord, on va écouter un petit peu de musique et puis on va voir justement un petit peu comment ça se construit, un livre, vous nous avez déjà donné un petit bout, on va voir comment ça se passe.
Salut-toi l'Algérie. Salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien.
Salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'éthiopien, salut à toi le tchadien.
Salut à vous les partisans, salut à toi la jolie allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais. Salut à toi le Thaïlandais, salut à toi le Laotien, salut à toi le Coréen.
Salut à toi le Polonais, salut à toi l'Irlandais, salut à toi l'Européen, salut à toi le Mongolien, salut à toi le Hollandais, salut à toi le Portugais, salut à toi le Mexicain, salut à toi le Marocain, salut à toi le Libanais, salut à toi le Pakistanais, salut à toi le Philippin, salut à toi le Jamaïcain, salut à toi le Guyanais, salut à toi le Togolais, salut à toi le Guinéen, salut à toi Guadeloupéen,
salut à toi le Congolais.
Salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut aussi aux apatrides, salut à toi la Bertaga, salut aussi à la Banda, salut à toi punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le sandiniste, salut à toi le Nigériste, salut le mouvement des jeunes armes, salut à toi le Guatemala, salut le Pékin du contingent, salut à toi le Chocan, salut à toi le Canac, salut à toi Tchiko Kovac. Salut à tous les films à bon, salut à toi qui es Japon, salut à toi le jeune malgache, salut à toi le peuple basque, salut à toi qui es au violon, salut à toi Imoroco, salut à toi le Yougoslave, salut à toi le voyou slave, salut à toi le Salvador, salut à toi le Molodoy, salut à toi le Chinois, salut à toi le Zaïrois, salut à toi l'Espagnol, salut à toi le Ravachol, salut à toi le Hongrois, salut à toi l'Iroquois, salut aussi à tous les Bosses, mais ils m'ont dit jusqu'à l'Écosse, salut à vous tous les Azous, salut à la jeune garde rouge, salut aux filles du peuple corse, salut aux filles du Tragios, salut à toi la vache qui rit, salut à Laurel et Hardy, salut à toi le peuple de Mal, salut à tous les camarades. Salut Seigneur Brainer, salut à tous les dimanchés, salut jeunesse du monde entier. Salut à toi, à toi, à toi. Salut à toi le Trombadaire, salut à toi Tonton Albert, salut à toi Pierre Lavasse, salut aussi André Thomas, salut à toi Roger Lepré, salut à toi le dimanché, salut à toi le paysan. Salut jeunesse du monde entier.
On est toujours sur Fréquence Mistral et on est dans l'émission Les livres ont la parole et on retrouve Marie Leboly qui nous présente son livre Le large dans les poubelles. Alors tout à l'heure, on vous expliquiez, vous aviez un petit peu commencé ce livre il y a 10 ans. Donc il faut tant de temps pour écrire un livre. Vous avez commencé, c'est venu un peu comme ça, sous le coup de l'émotion, vous disiez avoir écrit un certain nombre de pages. Qui ont été le début, même si vous aviez sans doute retravaillé, mais qui ont été le début du livre. Alors c'était une nécessité, quoi, cette espèce d'urgence d'écrire vite des choses.
Oui, j'ai eu envie d'écrire vite le début à un moment donné. Et puis après, ça n'a pas duré 10 ans, parce que j'ai presque oublié. D'accord. J'ai vraiment mis de côté. Oui, oui. Et un beau jour... Je m'y suis attelée pour de bon.
Donc, mais comment c'est ressorti ? Parce que bon, ça, c'était la petite graine que vous avez mise de côté, un peu oubliée. Et d'un seul coup, vous ressortez des textes de temps en temps. Vous regardez des textes que vous avez écrits. Puis vous dites, tiens, celui-là, il faut que je continue. Maintenant, je le sens.
Oui, mais c'était arrivé un moment où j'avais écrit d'autres choses. Notamment un petit roman jeunesse, 10-12 ans, qui n'a pas trouvé preneur. D'accord. Mais qui me semblait abouti.
D'accord.
Et donc pour continuer à écrire, parce que je me rends compte que j'ai besoin de continuer à avoir des projets et puis d'écrire régulièrement, j'avais repris ce début et je me suis dit que j'allais terminer l'histoire. Et ensuite c'est allé assez vite, hein, parce que je travaille à temps partiel en fait, depuis toujours. Et donc j'avais vraiment des moments de calme pour écrire. J'écris pas pendant des heures, je peux pas, parce D'accord. que sinon je perds contact avec la réalité et c'est pas bon, ça me met mal à l'aise. Mais quand les conditions sont bonnes, je peux écrire une heure et demie, deux heures.
Alors c'est une discipline.
Très régulièrement, voilà.
Vous vous imposez d'écrire très régulièrement ou bien vous profitez de moments plus favorables pour...
Je profite de ces moments parce qu'ils sont assez rares en fait.
D'accord.
Voilà.
C'est oui, vous avez
vraiment
des enfants.
Je suis disponible, il faut que ce soit le matin, parce que le matin c'est mieux, sinon
oui, oui.
Tout un tas de choses comme ça. Et ensuite, oui, c'est presque un rituel. Voilà. C'est programmé, je sais, je m'assois et j'y vais.
D'accord.
Et ça dure un temps limité.
Limité.
Voilà.
Et vous avez
après,
l'impression d'épuiser quelque chose ?
Comment ?
Vous dites que c'est un temps limité, vous avez l'impression d'épuiser vos forces d'écriture ?
Oui, je ne veux pas traîner en longueur. J'ai peur qu'après, ça soit trop mauvais, en fait.
D'accord.
Voilà.
Et donc, vous avez le sentiment, en ce qui vous concerne, qu'en écrivant une heure et demie, vous êtes dans le meilleur de votre forme, un petit peu comme un sportif, quoi. Et après, vous dépassez votre zone de compétence, presque.
Ouais, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Je pense qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui sont capables d'écrire pendant des heures ou d'écrire la nuit.
Oui.
Mais moi, non, moi, c'est pas mon cas.
Oui, oui, mais je crois qu'il n'y a pas de... Si on écoute la plupart des écrivains, ils ont tous quelque chose de différent, quoi.
Et, bon, voilà. Et puis, je crois que le temps entre deux séances d'écriture, même si j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, même si je ne pense pas spécialement à mes personnages ou à mon histoire, pendant ce temps-là, il se passe des choses, en fait. Voilà. J'ai l'impression que ce temps-là, c'est vraiment du temps, hein. Et il est nécessaire et il est important dans mon travail.
C'est un temps de compostage un peu,
oui,
ça
voilà.
se met en place.
Et puis il y a aussi
des choses de la vie qui peuvent intervenir, c'est-à-dire ça peut vous donner des idées.
Oui, bien sûr. Oui.
D'accord. Oui. Donc alors combien de temps vous avez mis alors du coup en dehors des 10 années là, après
après
pour écrire ce roman qui fait 170 pages.
Après, j'ai... Oh, ça s'est fait en quelques mois. Hein. Oui, quelques mois.
Ouais. Et alors, quand vous avez repris ce texte, vous avez dit, bon, vous disiez tout à l'heure, je me suis mis comme défi de le finir, de finir l'histoire. Mais l'histoire, vous l'aviez ou elle est venue au fur et à mesure de l'écriture ? Est-ce que vous aviez la plupart des éléments ou est-ce qu'elle s'est inventée toute seule comme ça en écrivant ?
Elle s'est inventée beaucoup en écrivant. Ouais. Enfin, j'ai une direction quand même à la base. Je sais à peu près où je veux arriver.
D'accord.
Mais ensuite, ça se fait voilà, presque sur le coup de l'inspiration, du moment. Et en fait, quand je m'assois et que je me mets à écrire, je ne sais pas exactement ce que je vais écrire.
D'accord.
Ouais. Ça vient dans la continuité. Je
c'est
relis
pas
ce que
un
j'ai
travail
dit,
complètement construit, découpé, comme un scénario qu'on découpe.
Non.
D'accord. Donc, c'est bien un peu au fil de l'eau, quoi. C'est comme une rivière qui coule et puis elle passe où elle peut.
Voilà, exactement.
Il y a des moments, elle tourne un peu en rond, elle fait des lacs, après, elle passe par-dessus le barrage et elle continue. D'accord. OK. Non, mais, et donc, par petits bouts comme ça... alors, est-ce que aussi... autour de vous, vous vous appuyez sur d'autres en disant « Tiens, tu veux bien regarder ce que j'ai écrit ?» Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est totalement personnel et à l'abri de regards, y compris des gens que vous aimez ?
Et non, j'ai un très bon lecteur à domicile.
Oui.
Et puis, j'ai écrit presque pour lui, en fait. Vraiment, oui. Et c'est justement parce qu'il en avait marre d'être mon seul lecteur qui m'a poussée à aller à la rencontre du monde. Voilà. Et donc lui, il a lu le manuscrit. Il a été le premier à le lire. Et il m'a proposé beaucoup de corrections. J'ai beaucoup retravaillé en fait suite à ses remarques.
Alors c'est intéressant parce que toujours j'écoutais à la radio, des fois j'écoute la radio, souvent, il y avait un auteur qui disait le contraire, il disait surtout je ne le fais pas lire à mes proches parce que je ne veux pas qu'ils aient de responsabilité dans ce qui sort, c'est-à-dire qu'ils puissent dire c'est de ma faute ou bien voilà, qu'ils ne se sentent pas coupables s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit j'assume complètement mon écriture avec mon éditeur, point. Voilà.
J'ai vraiment besoin de la vie extérieure, c'est vrai, hein. Parce que l'histoire, elle est dans ma tête, je la raconte, j'ai l'impression qu'elle est claire, parce que j'ai les images en tête et tout ça, ça se passe en moi. Mais est-ce qu'elle passe vraiment comme ça au lecteur ? Bon, c'est pas sûr, c'est pas la même chose qui se passe.
Oui.
Donc, pouvoir se remettre en question et puis éclaircir certains points, sans évidemment toucher au fond de l'histoire ou à l'écriture, mais
la réception par quelqu'un.
Oui.
Alors, vous avez des images, donc vous passez de l'image à l'écriture, un petit peu. Vous avez des images et vous passez à l'écriture. Et donc, c'est une espèce de traduction de quelque chose que vous avez, que vous voyez, quoi.
Oui, et puis parfois c'est l'inverse.
D'accord.
J'ai l'impression que ça écrit tout seul et que c'est presque les doigts qui vont plus vite que la pensée.
Ah.
Et voilà, et là en relisant, oui, les images arrivent.
Donc il y a un travail, oui, effectivement, le travail d'écriture, c'est souvent un travail de traduction de quelque chose. On peut avoir... ça peut être des images, ça peut être de l'oral aussi. Et ce qui fait qu'effectivement, on a besoin de temps en temps de vérifier que ce qu'on aurait raconté comme histoire oralement, quand ça passe à l'écrit, ça, c'est recevable par quelqu'un, par un lecteur. Donc, votre compagnon, votre lecteur à la maison, c'est bien comme nom, comme ça, d'avoir un lecteur à la maison plutôt qu'un compagnon ou un mari.
C'est un très bon lecteur.
C'est-à-dire, il lit beaucoup, il est critique,
Il lit avec beaucoup de sérieux, en fait.
D'accord.
Ouais, il fait ça très sérieusement, c'est un vrai travail.
Mm-hmm.
Ouais, et il passe beaucoup de temps à ça. Donc, il a passé du temps, à me lire et puis à tenter de tout comprendre, voilà, de tout saisir.
Mm-hmm.
Et à en parler avec moi.
D'accord. Ouais. Et vous, ça a été le seul lecteur ou vous avez eu d'autres lecteurs ? Parce que
non,
celui-là est proche. On peut penser qu'il a tendance, qu'on est dans un couple, on est de la même, je dirais, du même langage. On pourrait penser, on pourrait se méfier en dire, bon, lui, il connaît bien mes mots, mon langage, etc. Mais est-ce que quelqu'un d'autre comprendrait la même chose ?
Oui. Après, il y a eu quelques autres lecteurs qui ont lu cette histoire-là et qui m'ont encouragé, dont la vie a été... aussi important et précieux.
Bon, c'est super d'avoir un lecteur à la maison qui fait le travail. Donc, on peut considérer que vous l'avez aussi, vous l'avez embauché pour vous aider à écrire ce livre. Bon, et ensuite, une fois qu'on a... Et donc, vous disiez tout à l'heure qu'il vous a poussé à aller plus loin. C'était quoi, le faire éditer ?
Alors, c'était faire lire à d'autres que lui.
Oui.
Il a dit, j'en ai marre d'être ton seul lecteur. Maintenant, ça suffit, tu sais écrire, j'en suis sûre. Vas-y, quoi. Et à ce moment-là, j'ai envoyé quelques textes à René Frény.
Oui.
quelques nouvelles. Je les ai envoyées le lundi par la poste. J'ai juste mis mon nom, mon adresse et puis mon adresse mail en me disant « je vais pas mettre mon numéro de téléphone, s'il appelle, je vais bafouiller, je vais être trop intimidée pour pouvoir parler à René Frény. » Donc alors, je
pourquoi,
fais comme ça.
Pourquoi René Frény pour vous c'est
parce que j'aime beaucoup ses livres, je les ai tous lus. Et puis, je l'avais déjà rencontré à Fort-Calquier il y a quelques années. J'avais vu que c'était quelqu'un de sympathique et d'ouvert. Et puis, il habite Manosque. Mmh. Donc, c'est local. Et j'ai joué aussi là-dessus, quoi, en me disant qu'on pourrait se rencontrer éventuellement assez facilement. Mmh. Et donc, j'ai posté ça le lundi. Et puis, le mercredi, le téléphone a sonné à la maison. Et c'était René Frény qui avait cherché mon nom sur le potin, oui. Et bien sûr qu'il avait trouvé et qui m'a téléphoné. Et il a été très enthousiaste. Mmh. Et là, il m'a vraiment encouragé. Il a tout de suite été spontané. Et donc, c'était super. Hein. J'étais très émue d'entendre ça de sa part.
Alors, est-ce qu'il a, à ce moment-là, lui aussi, en tant que lecteur, dit est-ce qu'il vous a demandé certaines choses, ou bien dit là j'ai pas bien compris, ou donner des conseils?
Non, à ce moment-là, il m'a vraiment encouragé d'accord. encouragé en disant qu'il fallait que je rencontre un éditeur et que je sois édité. Mmh. Et donc ensuite on s'est rencontrés à la médiathèque à Digne parce qu'il avait été invité par le club des lecteurs.
Oui.
Et là j'avais avec moi une pochette avec ce texte-là, le texte du large dans les poubelles, donc mon texte le plus long. Et je la lui ai donnée, voilà. Et donc, toi, tu étais là. et puis, j'avais un peu parlé avec toi. Tu m'avais dit que ton métier, c'était de dire non.
oui. Voilà. On peut, justement, c'est intéressant d'être...
Et je t'ai dit, oulala, il a l'air très exigeant. Je ne sais pas si je vais lui envoyer mes textes. Et en fait, René Frény m'avait annoncé qu'il prendrait une journée pour lire ce texte-là dans la semaine qui suivait et qu'il me téléphonerait pour me dire ce qu'il en pensait. Donc moi, j'ai passé la semaine suivante à attendre son appel. Et puis, les temps ont passé, les semaines se sont succédées et toujours pas d'appel de René Frény. Donc là, je commençais vraiment à me poser des questions et à m'inquiéter. Et puis un jour, c'est justement mon lecteur à domicile qui a pris le téléphone un jour où j'étais pas là en me disant « Mais qu'est-ce que vous faites ? Elle en peut plus, elle arrive plus à écrire une ligne, il faut réagir. » Et c'est là que René Frény a dit qu'il avait transmis la pochette aux éditions Parole.
Oui.
Et puis bon, voilà, la suite de l'aventure, elle s'est jouée là.
Oui, bah, je peux en parler, parce que c'est intéressant d'avoir en face à face l'auteur et l'éditeur. Et c'est vrai que, bon, pourquoi on édite un livre, en fin de compte hein? Pourquoi on édite un livre Je dis souvent que c'est un métier où on dit beaucoup non, parce qu'en fait, on reçoit beaucoup de manuscrits, et comme on n'a pas la capacité de tout éditer, pour deux raisons. D'abord, financièrement, quand on est une petite maison d'édition, et puis, tout n'est pas éditable. Et tout n'est pas éditable par nous, parce qu'on a des choix, comme on dit, éditoriaux. Et puis, on estime que... un livre, ça se porte comme un enfant, et quand on n'a que deux bras, on ne va pas faire 20 enfants, parce qu'on a l'impression de maltraiter certains. Donc on édite un nombre limité de livres, donc pour beaucoup de manuscrits qu'on reçoit, on dit non. Voilà. Donc c'est un métier où on dit plus souvent non que oui. Donc c'est pour ça que c'est douloureux. Alors pourquoi on choisit un livre ? Pas forcément parce que René Frény, qui est un grand auteur, nous dit « Tiens, ça c'est bien ». Mais c'est vrai que ça compte quand même, parce que c'est quelqu'un que j'estime aussi. Hein. Donc si René me dit « Tiens, tu devrais regarder ça », c'est bien, quoi. Donc effectivement, c'est un lecteur auquel on a accordé sa confiance. Et donc on se dit « Bien, tiens, s'il a trouvé le truc, il faut que je m'y penche quand même ». Un peu plus, voilà. Et donc, et après, bon, il y a un choix qui est fait de dire, bon, ben, ça rentre dans notre collection, dans telle collection, parce que les choix sont faits aussi en fonction de ça. À partir du moment où, dans une maison d'édition, on a fait des collections, c'est un peu des boîtes, et on se dit, ben, ça rentrait bien dans une boîte, puis il y a des moments, il y a des livres qui rentrent dans aucune boîte. Et celui-ci aussi, ce que j'ai trouvé intéressant dans celui-ci, j'en parlais tout à l'heure, ce côté, cette fraîcheur, c'est vrai qu'on a des auteurs qui sont pas toujours toujours jeune, et là, je trouvais ça intéressant. Et puis, c'est vraiment lisible par tout le monde, y compris des jeunes, et c'est à la fois plein d'espoir. On parlait de débrouillardise, de se trouver face à des situations difficiles, des questionnements, et je trouve que voilà, il y a aussi, on a apporté en tant qu'éditeur un petit peu des messages aussi de ce que disent les auteurs. Voilà. Vous voulez, je peux répondre à une autre question? Bon. Eh bien, on va écouter un petit peu de musique. Hein. Alors, tout à l'heure, on a écouté, c'était quoi qu'on a écouté?
C'était Salut à toi, des ogres de Barbac.
Les ogres de Barbac.
C'est une reprise des Bérus.
Des Bérurier Noir. Il faut dire Bérurier Noir pour les jeunes.
Que j'ai grandi, est-ce qu'il fallait toucher de près ce doux poison, couper le jus, couper le son. On s'est menti, on le savait. On était faux, on était vrai. Le vent soulève les oiseaux. J'ai plus ma tête, c'est rigolo. De toute façon, faut pas s'en faire. On finira dans l'atmosphère. D'ici là qu'on marche sur l'eau, on sera vrai, on sera faux. Peut-être, pourvu qu'il y fasse un peu beau, je t'écrirai en quatre lettres. A.I.M.E. je t'aime trop. Sur mon carnet, je t'écrirai. C'est quelques pas que j'esquissais. Esquisse, esquisse dans un trait. Qu'on sera faux, qu'on sera vrai. Je t'écrirai la cicatrice de mes plaies. Y aura nos sourires à coup sûr dans la poussière de nos murs. C'est pas demain, mais c'est bientôt qu'on sera vrai, qu'on sera faux. Sur mon carnet, il y avait des cris. Les anges passent par ici. Il y aura gravé dessus nos peaux qu'on sera vrai, qu'on sera faux. Peut-être, pourvu qu'il y fasse un peu beau, je t'écrirai en quatre lettres. A.I.M.E. je t'aime trop, on sera vrai, on sera faux. Peut-être, pourvu qu'il y fasse un peu beau, je t'écrirai en quatre lettres. A.I.M.E. je t'aime trop. Et quand t'ouvrira la fenêtre, il restera ces quelques mots.
Eh ben, on se retrouve sur Fréquence Mistral avec Marie Léboli dans l'émission Les livres ont la parole. Et on parle de son livre qui s'appelle Le large dans les poubelles. Alors, vous parliez tout à l'heure, vous aviez des choses à dire, des messages. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire? Alors, dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on part de Copenhague, où on ne reste pas très longtemps. Après, on est sur Marseille et on va remonter aussi la Durance jusqu'à Digne et autour. Et on découvre, ça permet aussi de parler de ce pays que vous aimez beaucoup, je crois.
Hein, oui,
c'était une façon de parler de ce pays aussi.
Oui, aussi, oui.
Parce qu'on a les Russes, on a tout ça, mais on a d'abord la Provence et la Haute-Provence.
On a le 04, oui. Oui, oui, c'est vrai. Bah, c'est un pays paradisiaque et en même temps méconnu, mm-hmm. qui reste encore à l'écart du tourisme de masse et qui est pour moi plein de poésie. Mm.
Donc vous avez eu aussi, je veux dire, il est imprégné de... Ce pays imprègne ce livre quand même. Hein,
oui.
On le traverse, en dehors des messages que vous vouliez délivrer, il y a quand même ce support qui est ce pays.
Oui.
On est aussi bien dans la rivière, la forêt. Voilà. Mais sinon, alors, l'objectif, tout à l'heure, c'était de dire quoi dans ce livre ? C'était porter un message, de dire qu'on peut se débrouiller, s'en sortir ce...
Non, c'était de raconter une histoire, raconter une aventure, et en même temps de me pencher sur cette question de l'adoption, puisque j'ai moi-même un frère et deux sœurs adoptés. Mmh. Et je pense qu'il y a une blessure à l'origine, en fait, et que tout l'amour du monde ne peut pas la guérir. Je ne dis pas que l'adoption ne sert à rien. Non, pas du tout. Mais oui, je crois qu'il y a une blessure à la base et que voilà, ça marque.
Mmh. Voilà, donc quand même le sujet essentiel, c'est cette jeune fille qui donc est adoptée, qui est... Vous l'avez dit, dans de très bonnes conditions. Mmh, hein, ses parents adoptifs sont aimants, lui offrent toutes les meilleures conditions, mais il y a un trou. Hein, elle cherche effectivement à retrouver ses origines. Et donc, c'est quelque chose que vous... C'est un sujet que vous connaissiez, quoi.
Voilà, oui, qui vous semblait... Oui, c'est une situation que je vis depuis que je suis toute petite, hein, avec mes frères et sœurs. Mmh. Voilà.
Donc, alors vous l'avez vécu, vous en avez parlé avec eux, ils en parlent, comment ça se passe ? On ait envie d'en parler comme ça,
c'est... Non, ils restent très pudiques, mais voilà, ça marque une vie.
Ça a marqué la vôtre déjà.
Oui, bien sûr.
Même si ce n'est pas votre cas, vous.
Oui.
D'accord. Ok. Et alors, l'écriture, voilà, le livre est parti. Il est reçu avec un bon intérêt. Hein, je veux dire, les gens aiment beaucoup ce livre. Et après, du coup, vous avez envie de faire quoi ?
De continuer.
Vous dites, voilà, vous avez expliqué, vous écrivez presque tout le temps.
Oui.
Donc, vous écrivez d'autres choses.
Je suis en train d'essayer d'écrire la suite, là.
La suite,
oui,
carrément.
Oui, la suite.
Alors, c'est la suite de cette histoire
ou
c'est
cette
une
histoire,
autre histoire ?
La suite immédiate de cette histoire. Elle pourrait presque faire partie du même livre.
D'accord.
Non,
parce
qu'on
peut imaginer,
partie, en fait.
Comme il y a 10 ans, vous aviez ce petit bout de départ, vous pouvez avoir tous les ans un autre petit bout de départ, donc avoir plein de départs de plein de romans.
Bah, j'ai d'autres choses encore sous le coude. J'ai écrit d'autres textes. J'en ai écrit un l'année dernière, alors que ce livre-là était en train de mûrir aux éditions Parole.
Oui.
Mais c'est pas un...
Et donc là, vous êtes en train d'écrire la suite.
Oui.
Ça s'appelait Retour à Copenhague.
Presque.
D'accord. Et je veux dire, ça vient aussi facilement que le premier, ou bien... Alors, pourquoi une suite ? Ça ne vous semblait pas fini ?
Ça m'a semblé fini sur le coup. Oui. Et puis, ça a continué à me travailler, en fait. Et je me suis dit qu'elle avait... sa vie à elle n'était pas finie. Nastia, elle avait encore plein de choses à éclaircir, à découvrir, à vivre. Et en fait, c'était difficile de lâcher le personnage.
Oui.
Voilà. Il m'était devenu familier.
Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être dans le personnage des fois, d'habiter le personnage ?
Si, bien sûr. Il y a toujours de... Il y a toujours de moi dans ce que j'écris. Après, ça reste une fiction.
Oui. Mais bah, je vais dire...
Forcément, on est forcément dedans, oui.
Je vais lire justement quelques mots qui sont presque à la fin. Mm. Et la vie reprendra son cours, plus riche peut-être, un peu plus claire aussi, mais toujours aussi complexe. Les gens qui sont entrés dans celle de Nastia ne sont pas prêts d'en sortir. Ça, c'est que vous nous annoncez presque la suite.
Oui, oui, oui. Oui, et puis dans la dernière oui. phrase aussi, hein, c'est encore oui. plus
énorme. Oui, mais on ne va pas tout
énorme,
dire.
On ne va pas tout dire. Hein, voilà. Non, on ne va pas tout dire.
D'accord. Donc, travail d'écriture. Et il en est où, ce travail d'écriture, pour la suite ?
Il en est à la réécriture, en fait.
D'accord.
Voilà, l'histoire a un début et une fin. Et maintenant, il faut retravailler.
Et vous retravaillez en général,
oui. Oui.
Donc premier jet,
oui.
Et après avec votre lecteur
exactement,
à domicile.
Exactement, voilà.
Ouais, et vous retravaillez.
C'est tout frais là, oui, oui.
Vous retravaillez beaucoup, plusieurs fois ou une seule fois?
Plusieurs fois, parce qu'il y a plusieurs passages. Voilà, donc ça se fait. Oui, il y a plusieurs endroits du livre en fait, du texte à réécrire. Donc ça fait plusieurs séances de travail, forcément. Mm-hmm. Ça peut pas se faire d'un coup.
Est-ce que vous nous liriez un petit bout du premier, le large dans les poubelles? Si vous avez préparé un petit texte, qu'on ait un peu le goût de tout ça, et puis savoir qu'est-ce qui va nous pendre au nez.
Alors, je vais lire un petit passage plutôt vers le début, quand elle est à Marseille, et qu'elle se débrouille pour vivre toute seule. Qu'elle s'est organisée, en fait, pour vivre toute seule dans Marseille. Nastia coule des jours heureux. C'est bizarre peut-être, mais c'est vrai. L'entretien élémentaire de sa vie occupe ses journées. Et puis, il y a la mer. C'est beau à en pleurer. Le matin, elle ouvre les yeux sur une immensité. Un bleu vivant qui multiplie à l'infini l'éclat de la lumière. 1000 soleils. La mer Baltique était son échappée belle. Toute petite, déjà, les pieds posés sur le sol laiton, elle se sentait plus grande, les yeux au large. Elle se souvient de la mer, la grande mer grise, plus fascinante qu'un écran de télévision. Mouvante, vivante, une grosse bête qui parfois gelait l'hiver et que certains perçaient alors pour glisser leur corps dans ses trous d'eau glacée. Et puis, elle était passée sur l'autre rive. Colding est tournée vers les lointains baltes. Et le plaisir de la contemplation avait suivi, intact, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Nastia grandissait et la mer restait primordiale.
D'accord. Alors, ce qu'on retrouve aussi, c'est ça, c'est qu'il y a une espèce de... Parce que c'est un mot qu'on retrouve aussi dans le livre, c'est le bonheur, c'est une espèce de goût du bonheur. Hein, et ce que vous disiez au début, voilà, ben, elle s'en sort parce qu'elle a envie de bonheur, elle a envie de vivre. C'est pas du tout pessimiste, quoi. C'est plein d'espérance et d'espoir. On écoute un peu de musique ?
J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre. Tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer. Tant besoin d'un petit coin pour pisser le matin. J'ai tant besoin d'amour, tant besoin tous les jours. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai tant rêvé d'un jour, de marcher sous la lune. J'ai tant rêvé d'un soir, au soleil de tes nuits. J'ai tant rêvé d'une vie, à dormir ce matin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin.
Donc voilà, ben, le large dans les poubelles, c'est le livre dont on parle sur Fréquence Mistral avec son auteur, Marie Leboli. Et donc, elle nous a expliqué, on est arrivé un petit peu au bout de l'histoire, elle nous a expliqué que non, c'était pas fini et que la suite était en cours, en pleine réécriture. Et donc, ben, on n'a plus qu'à attendre. Alors, est-ce que parallèlement, vous écrivez d'autres choses? Est-ce que vous écrivez tout le temps? Est-ce que quand vous écrivez, vous êtes complètement absorbé par un travail ou bien vous écrivez des bouts de l'un,
non,
de l'autre?
Je suis sur un travail.
D'accord.
Voilà. Et puis je vais au bout.
Au bout. Voilà.
Mais j'ai d'autres projets là.
Oui.
Notamment avec le. Peut-être avec le théâtre.
D'accord. Voilà. Ok. Et puis vous avez expliqué tout à l'heure, vous aviez écrit aussi des textes pour la jeunesse, pour les enfants.
Oui, oui, oui. Ouais. Mais bon, là, c'est un petit peu difficile d'arriver. Enfin, on n'a pas encore réussi à vraiment rendre public.
Ouais. Mmh.
J'avais un album presque abouti, là, qu'on avait fait à deux, donc avec les dessins.
Oui.
Et qui avait intéressé deux éditeurs. Et à chaque fois, on avait eu vraiment beaucoup d'espoir. On avait l'impression que c'était bon. Mmh. Et puis non, il avait été refusé. Donc voilà.
Mmh. Et vous expliquez ça ou pas? C'est le hasard qui fait que c'est
non,
refusé?
Pense...
Ou bien vous dites, tiens, peut-être qu'on est... que c'est pas tout
non,
à fait
c'est
abouti.
Pas, c'est pas, oui, c'est pas assez professionnel. Il y a peut-être trop de travail et puis les maisons d'édition ont pas forcément les moyens de retravailler comme ça avec les auteurs. Il y a énormément de livres qui sortent et puis pour la jeunesse là,
pour
au niveau
jeunesse,
des albums
oui,
chaque année tout le temps il y a il y a beaucoup de livres et de très bonne qualité la plupart du temps. Donc j'imagine que
la concurrence
peut pas suivre. Dur, voilà, ils peuvent pas suivre tous les projets quoi. Il y a beaucoup de belles choses qui sortent, vraiment.
Oui, c'est sûr que les livres jeunesse, c'est le plus gros marché du livre. Hein. Je crois que ça représente 40% du marché du livre en France. Et, parce que, bon, oui, il y a une attente. Vous en parliez tout à l'heure. Les enfants, ils aiment les histoires. Et puis, les parents, ils aiment aussi raconter des histoires. Oui. Les parents, les grands-parents, les éducateurs, enfin tout le monde. Donc, il y a beaucoup de matière qui sort, effectivement. Et il y a des grandes maisons pour ça. Et puis parfois, on essaye d'en faire quelques-uns, mais c'est pas évident. Et y a des habitudes qui sont prises. Les gens disent, bah, tiens, dans telle collection. Bon, on a été bercé par ça aussi, hein, les albums du Père Castor, qui fonctionnent toujours très bien. Voilà, bon, c'est les grands classiques, mais ça reste d'une grande qualité. Quoi. Voilà. Eh bien, on va peut-être vous libérer, Marie. Merci d'être venue nous avoir expliqué tout ça. On va attendre votre prochain livre. Alors, où est-ce qu'on peut, de temps en temps, vous rencontrer? Dans les soupes aux livres?
Oui, j'en fais quelques-unes. Hein.
D'ailleurs, on va vous retrouver en Suisse, à Lausanne, puisque vous allez participer à la soupe aux livres à Lausanne, dans une librairie de Lausanne qui s'appelle Basta Chaudron. Voilà, qui est une librairie autogérée à Lausanne, dans laquelle le 8 mai, on fait une soupe aux livres et vous serez avec nous, je crois, ça ?
Oui.
Bon, super. Eh ben, ça va être très bien chez nos amis suisses. Voilà. Eh ben, merci. Et puis, on se retrouve en Suisse le 8 mai, hein, pour tout le monde. Un peu de musique ?
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
La routine et le manque de vie qui se tasse, sac à dos à arrache, allez hop, je me casse et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur, quitte à galérer ici, je m'en vais galérer ailleurs. Tcha tcha, où les éduques, je me barre, vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, passer par la fenêtre, c'est clair, j'ai ma liberté qui m'attend juste devant, je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3, tcha tout le monde, allez pas le temps, bon blabla, je suis toujours la seule à partir, putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie, là où le système en sorcelle, à coup de vibes sorties, pour moi un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre, besoin d'aller respirer autre part, ici on veut me dresser, me faire avancer au pas, moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura, les flics au cul, je les entends dire la petite en aura, je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre, je m'en vais respirer autre part, je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre. chacune de mes courses. Dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses, portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. La nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition. J'ai rien à craindre, percé par le champ de la lune. La chance dans les mains, libre, enfant de la rue. Loin du monde, des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. Fuck, c'est peut-être con, mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales, ma délinquance a des principes. Alors laissez-moi en paix, vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe, enivrée, où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer au port. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer au port. Libre, ça me suffit, c'est impec. Moi je suis bien quand j'ai rien. Car pour être libre, faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Élu sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo ou un trait. Croisant mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges. Fous depuis un bout de temps, j'ai pris de la bouteille et j'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre, là où le ciel est le toit, entre ciment et belle étoile.
Et voilà, on se retrouve donc sur Fréquence Mistral pour la suite et la fin de cette émission, Les Livres ont la Parole. Donc on recevait aujourd'hui Marie Leboly, qui est pour son premier roman, Le Large dans les Poubelles, et qui nous a dit qu'elle était en train d'écrire la suite. Donc on va attendre ça, ça va être une surprise. Et puis elle écrit d'autres choses, hein, elle nous en a parlé, elle écrit un certain nombre de choses. Voilà, donc... C'était avec donc Marie Leboly. Et puis maintenant, on va continuer un petit peu pour parler des actualités des éditions Parole, même si on en a déjà un petit peu parlé. Donc on a sorti deux livres, les deux derniers livres sortis. On a beaucoup parlé avec Berthe Pélestor, Ravel, de l'affaire de la difficulté des bergers avec l'avancée du loup, hein, c'était notre dernière émission. Donc Berthe Pélestor, qui est bergère, qui a eu toute une carrière de bergère, d'autant que sa maman était bergère aussi, donc elle est tombée dedans quand elle était petite, et qui avait écrit plusieurs livres précédemment, L'épôtre de mon enfance et Un liseré de Platel, et qui écrit cette fois-ci 20 ans de cohabitation dévastatrice, où elle raconte, depuis l'arrivée du loup en 92, année après année, les difficultés que ça pose aux éleveurs et aux bergers, les attaques, les déclarations des uns et des autres, les indécisions des uns et des autres. Ben, toujours est-il que c'est devenu une affaire assez dramatique, souvent avec beaucoup de violence verbale de la part des pour et des contre le loup. Ça nous paraissait important de donner la parole à ceux qui sont directement confrontés à la présence du loup dans les bergeries. Voilà.
Est-ce que vous savez si elle a eu des retours, des agressions suite à l'écriture de ce livre ?
Non, pas pour l'instant, mais je veux dire, si il y a des gens qui disent que. Qui sont violemment pour le loup et que les bergers, ils n'ont rien à dire. Bon, voilà, c'était pas nouveau, quoi. Hein, et de l'autre côté, il y a un certain nombre de bergers qui sont contents qu'un d'entre eux ait pu avoir la parole pour expliquer leur souffrance, parce que c'est devenu une véritable souffrance, voilà. Donc, c'était aussi faire pour ça, c'était aussi pour dire, ben, on vous oublie pas, vous existez, vous faites un travail... important, qui est beaucoup plus important qu'on le croit. Hein. L'autre jour, justement, lors d'une soupe olive, il y a eu débat sur le sujet, et il y avait quelqu'un du parc naturel régional qui expliquait qu'il faut faire attention à ne pas faire disparaître les bergers, parce qu'il expliquait que dans la grande question de l'écologie et de l'adaptation de l'homme à ce qui se passe aujourd'hui, les bergers sont ceux qui sont les plus avancés dans la connaissance de la nature, parce qu'ils sont c'est ceux qui sont les plus profondément enfoncés dans les forêts et à proximité des animaux. Et c'est faire disparaître ce maillon manquant, s'il y avait ce maillon qui manquait, on pourrait perdre contact avec la nature, en fait. Hein. Y a des gens qui sont comme ça, en première ligne. Alors, il y a ceux qui parlent de nature, mais qui vivent en ville, et qui la voient comme une espèce de rêve. Et puis, il y a ceux qui sont directement au contact de la nature, ceux qui travaillent dans les bois, ceux qui travaillent avec les animaux, ceux qui travaille dans les champs à faire des choses importantes et qui sont ce qui permet à l'homme de rester accroché à la nature, parce que on a besoin de cette nature pour vivre, pour se nourrir, et on peut pas prendre le risque de rompre le lien, le côtoiement avec cette nature, sa compréhension, la façon dont on peut, je dirais, se nourrir de ce qu'elle nous donne. Ça serait un véritable danger de se couper de la nature de cette façon et de faire disparaître ces maillons qui sont les maillons les plus avancés, qui sont un peu l'avant-garde de l'être humain, ou l'arrière-garde si on considère qu'on se retire vers les villes. Pas oublier que 80% de la population vit en ville aujourd'hui, et le danger, c'est de se couper de la nature, en garder une espèce de vision un petit peu je dirais utopique et romanesque, alors que la réalité, c'est, il faut se la coltiner, elle n'est pas facile, mais elle est nourricière en même temps. Voilà. Donc, c'est un livre qui fait débat, et ben c'est bien. Voilà, hein. Alors, l'autre livre qui est paru en même temps que 20 ans de cohabitation dévastatrice de Berthe Pélestol-Ravel, c'est La chef de Monsieur Crétin, de Olivier Soria. Donc, qu'est-ce que c'est que La chef de Monsieur Crétin ? C'est un olivier qui est planté sur une colline depuis un certain temps, bien tranquille. Lui, il plonge ses racines dans la terre, il se nourrit de ce qu'il y trouve. Et un jour, il voit arriver drôle de bestioles sur deux pattes, en particulier un garçon et une fille qui viennent se réfugier sous ses branches pour vivre leur amour, leur histoire d'amour des naissantes, et qui vont finir par s'installer à ses pieds et faire toutes les bêtises que l'homme a pu faire par rapport justement à la nature, par rapport les comportements qu'ils ont les uns avec les autres. Voilà. Je trouve que c'est assez sympa. Il y a un ton à la fois plein d'humour et dramatique, mais ça nous interroge sur où est-ce qu'on va, quelles sont les bêtises qu'a fait l'humanité par rapport à ce rapport qu'elle avait justement avec la nature. Voilà, donc les frasques écologiques de l'être humain racontées par un olivier qui s'appelle aussi l'auteur Olivier Soria. Alors, je vais vous en lire un tout petit bout quand même, un tout petit bout du début. J'étais un arbre et, chez nous autres, il était rare de voir grandir notre progéniture, car nos graines se trouvaient souvent disséminées au loin par vents, chures et marées. Vous l'aurez sans doute compris, je ne saurais commencer cette passionnante histoire en vous contant mes souvenirs d'enfance auprès de mon arbre mère. Je ne saurais non plus vous émouvoir en vous faisant part de mon petit nom. Et oui, telle était notre condition, j'avais germé dans l'indifférence la plus totale, sans que personne ne ressente le besoin de m'interpeller, pour quelque raison que ce soit. Enfin, personne, jusqu'à ce jour où cette famille animale, tout à fait atypique, décide de prendre ses quartiers à mes côtés et commence à me dénommer l'Olivier. Voilà, ça commence comme ça. Et puis, on va avoir toute cette famille qui va aller loin, parce que elle va finir par produire plus qu'elle a besoin. Au début, c'est très difficile, puis finit par avoir un peu de surplus. Donc, ce surplus, elle se dit, on va en tirer un peu de profit, on va aller le vendre à la ville. Donc et puis ce surplus, elle l'a tiré de l'olivier, justement, parce qu'elle va vendre de l'huile. Et puis, donc elle découvre l'argent, elle s'achète des choses. Et puis aussi l'endettement, et puis jusqu'à des moments plus difficiles. Voilà. Donc Olivier Soria, c'est un monsieur qui avait fait d'abord des études de marketing, de commerce international, et puis il s'est aperçu un jour qu'il était complètement à côté de la plaque, que ça ne lui convenait pas du tout. Donc il prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il rompt complètement avec les affaires et la finance. Et il prépare un master éthique et développement durable. Ses travaux sont sur le risque d'une monétarisation effrénée des services écologiques. Et c'est à partir de là qu'il a écrit ce petit conte, La chef de Monsieur Crétin. Voilà. Donc, on écoute un peu de musique.
Des masses de mots, y a des mots demasiado. Y a des mots comme s'il en pleuvait. Y a des mots comme te quiero. Y a des mots, c'est des couteaux qui te matent en silencio. Mais pour ce qu'il y a entre sa peau et ma peau, y'a pas le mot, y'a pas le mot qui tienne ni même celui-là. Qui court sur les bords de ta peau, c'est du silence à pleuvoir des couteaux. Y'a des mots, des masses de mots, y'a des mots, des maciados.
Voilà, donc on se retrouve sur Fréquence Mistral avec l'émission Les Livres ont la Parole. Donc c'était un peu la partie où on parle de l'actualité des éditions Parole. Donc j'ai présenté les deux derniers livres là. Et l'actualité, c'est les soupes olives. Alors on vient d'en passer plusieurs, puisque le week-end dernier, il y avait une soupe olive à Briançon et l'autre à Riez, à deux endroits différents. Donc l'équipe s'était coupée en quatre, en fait, parce qu'il y avait deux autres manifestations à deux autres endroits. Et la prochaine, malheureusement, c'est un peu loin, même si aussi dans les montagnes, puisque c'est en Suisse, à Lausanne. Donc c'est le 8 mai à Lausanne, dans une librairie qui s'appelle Basta Chaudron, qui est une librairie assez importante, qui est une librairie autogérée. Voilà. Et puis ensuite, les autres manifestations autour du livre, mais on aura le temps d'en parler la prochaine émission. Il y aura la fête du livre du Verdon, qui a lieu le premier week-end de juin, enfin le 6, 7, 8 juin, hein, qui est pas tout à fait le premier, mais qui est donc... voilà, et au cours de laquelle il y aura, c'est une fête au cours de laquelle il y a des spectacles, il y a des balades, il y a des sorties, il y a des expositions, et puis il y a aussi des livres, des auteurs, des éditeurs. Il y aura, comme l'année précédente, entre 15 et 20 petits éditeurs régionaux ou d'ailleurs, pour présenter des choses intéressantes. Voilà. Donc, et puis on se retrouvera l'été sur un... On fait des manifestations, des fêtes du livre. On se retrouvera le 10 juillet dans la vallée du Jabron, à Montfroc, où il y a un salon du livre, au pays d'André Bûcher, qui est aussi un auteur important et intéressant. Et on se retrouvera aussi le 9 août à Riez pour la fête du livre qu'organise le libraire. Enfin bon, partout, il y a des choses où, et on essaye d'y participer. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout de ce que j'avais à dire pour cette émission. Et on se retrouve le mois prochain pour parler à nouveau des livres.
Alors, est-ce que ce sera le deuxième mercredi du mois, c'est-à-dire le 13 mai ?
Le 13 mai.
Ou on le reporte au troisième mercredi du mois ?
Qu'est-ce qui on va le reporter peut-être parce que...
Parce qu'il y aura déjà Lausanne.
Oui, on va le reporter au troisième mercredi du mois.
Voilà.
Et surtout, il y aura la sortie d'un livre dont on parlera à ce moment-là, qui s'appelle Le prix de la liberté, qui parle de la remise en esclavage des Noirs en 1802 en Martinique. Et c'est un livre qu'on présentera aussi à la médiathèque, normalement le mardi 26 mai.
Alors, le 26 mai, donc
c'est bien
est-ce
un mardi.
Que c'est un mardi.
Voilà.
Donc, on peut dire qu'on peut se donner rendez-vous sur Fréquence Mistral le 20 mai, mercredi 20 mai.
Voilà.
Ça marche ?
Oui, comme ça, on aura sans doute ce livre qui sera sorti et on annoncera la présentation à la médiathèque François Mitterrand à Digne.
Eh bien, Jean, merci pour cette belle émission encore. Et puis, on rappelle que cette émission sera bien sûr sur le site de Fréquence Mistral et où on pourra retrouver aussi le lien des éditions Parole, puisqu'il y a un site où on peut retrouver tous les livres.
Ah oui, 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 sur www.éditions-parole.net. Donc, on a toutes les informations sur tout ce qui se passe pour chaque livre. Parce que les livres ont une vie aussi, hein, je veux dire, il y a beaucoup de
et
livres.
Oui, vous les faites vivre justement en les présentant un peu
oui,
partout.
Oui, puis on les présente, voilà. On les porte, mais il y a aussi, ils se portent des fois, parce qu'il y en a certains qui ont un spectacle autour d'eux. Hein. Mm-hmm. Je veux dire, L'Homme Semence, il y a aussi... Ben, L'Homme Semence va être lu sur la radio suisse romande.
Hein, ah oui.
Voilà, mm-hmm. Bientôt. Et puis, il y a des livres comme Jamie le Crocodile, dont le spectacle continue beaucoup dans les écoles, dans un certain nombre de médiathèques. Il y a,
c'est un livre CD, celui-ci.
Voilà, mmh. C'est un livre CD sur la différence, justement. Mmh. On parle beaucoup en ce moment des problèmes qu'ont les enfants dans les écoles, avec la violence à l'école, pour des enfants qui sont un peu différents.
C'est celui-là que j'aurais bien aimé commander. Ouais. Il serait temps que je...
Oui, oui. Donc, Jamie le Crocodile,
oui,
qui perdit ses dents.
Oui, c'est hyper
avec un disque où il y a 12 chansons de 12 styles de musique différents. Et on parle de la différence, avec beaucoup d'humour. C'est en plus un spectacle absolument marrant. Je veux dire, les gosses se marrent, et les grands aussi. Voilà, il y a Pour l'exemple aussi, sur la guerre de 14...
Qui va se faire en théâtre aussi.
Ah, il existe déjà, il tourne déjà. Oui. Ouais. On trouve justement les dates. Donc, c'est mis en scène par Félix Chabot et René Sette. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est tout un travail aussi sur cette guerre qui a beaucoup touché tout le monde. Mm-hmm. Voilà. Et puis, il y a... qu'est-ce que j'oublie ? Donc, L'Homme Semence qui se joue un peu partout. Qui va faire l'ouverture du Festival de Spa en Belgique, qui est le grand festival de théâtre de Spa. Le 7 et 8 août, enfin je ne sais plus, mais tout ça c'est marqué sur le site. Voilà.
Vous êtes le seul éditeur de L'Homme Semence ?
Ah oui, oui, complètement. Oui, oui. Donc, il n'y en a jamais eu d'autres. Il y a des gens qui disent : mais non, je le connaissais, je l'ai vu il y a 20 ans. C'est pas vrai.
Ouais. Donc c'est un grand, grand succès pour les éditions Parole.
Oui, mais c'est un livre qu'on porte avec beaucoup d'enthousiasme et qui touche beaucoup de gens, qui relaie. Je dirais qu'il y a... On est les enfants de Violette Ayot. Il y a tout un tas de gens qui le portent avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. Et c'est génial. Il y a la BD aussi. Hein. Et les deux dessinatrices de la BD font des spectacles avec avec L'Homme Semence. Elles font des lectures dessinées. C'est-à-dire, elles vont dans les endroits, dans les médiathèques, dans des bistrots. Donc, comme elles sont deux, et pendant qu'il y en a une qui lit, l'autre dessine sur des grandes feuilles de papier. Et comme aussi Mandragore est musicienne, il y a des intermèdes musicaux, elle joue de la harpe et de l'accordéon. Et ça fait des spectacles dessinés qui sont assez étonnants, quoi. Mais, et c'est ça, je veux dire, ce que ça a donné aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que ce livre, il a donné naissance à tout un tas de rebonds créatifs. De gens qui, ayant été touchés par ce texte, le portent, je veux dire, comme Agnès Dumouchel, hein, qui est conteuse et qui porte ce texte partout avec beaucoup de bonheur. Quoi, voilà.
C'est bien.
Voilà, ben notre boulot, Éditer, c'est facile de faire un livre si c'est simplement le faire imprimer, mais après, il faut le porter. C'est comme un enfant, hein. Une fois qu'il est né, il faut l'éduquer, le porter au début, le soigner, le défendre, puis petit à petit, il va devenir grand.
Voilà. Et là, au jour d'aujourd'hui, combien de livres ont été édités chez vous ?
Alors, on a passé le 70 titres différents en 10 ans, quoi. Ouais. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On peut pas porter trop de livres par an parce que, justement, il faut se battre pour eux. Faut aller à plusieurs endroits. Hein. Ce week-end, on était quatre de l'équipe, des auteurs, à être donc à Briançon, à Riez, à La Farlède. Il y a une foire bio pour présenter les livres aussi. Et puis, il y a une petite manifestation littéraire à Gréas, une manifestation littéraire. Et donc, Sophie Alfieric a écrit 3 jeunes appelés dans les Aurès. Présenter les éditions par eux. Chacun porte aussi, prend sa part.
Voilà, tous les auteurs jouent le jeu de venir à des soupes aux livres, lire des extraits de leurs livres.
Dans la mesure où ils ont la disponibilité, ils le font. Quoi. Mm-hmm. Ils comprennent bien que le livre, puisqu'on bénéficie, on n'est pas propriétaire de TF1, ni de Télérama, ni de Libération, on ne peut pas les utiliser pour faire notre pub, donc il faut bouger, aller là où on peut rencontrer les lecteurs et porter les messages qui sont dans chacun des livres. Ce que disait Marie, elle a aussi des messages à dire, même si c'est un roman qui est frais, comme je disais, qui est marrant, qui est plein de suspense, mais ça s'adresse aussi à ceux qui ont effectivement sont orphelins, ont été adoptés et ont ce trou en eux. Voilà. Elle tenait à en parler. Voilà, il y a toujours quelque chose à prendre dans les livres.
Alors, vous les lisez beaucoup, évidemment. Et vous écrivez aussi, Jean. J'en profite puisqu'il reste quelques minutes.
Ben oui,
dans votre coin.
Oui, mais j'ai toujours écrit. En fait, j'ai gagné.
Il
n'y
a rien
vie.
Qui a été publié.
Alors, si j'ai publié beaucoup, mais c'était pas pour moi. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup écrit. Mon métier, ça a toujours été d'écrire. Donc, j'ai commencé par la vente par correspondance et je faisais des lettres. Mm-hmm. Hein, et c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas meilleure école. Parce que écrire une lettre, il y a nécessité de toucher son lecteur et d'être efficace, on va dire, entre guillemets. J'aime pas
en
beaucoup
quelques
ce
mot. Mots, on va dire. Ouais.
Voilà, en peu de mots, que vous écriviez à votre amoureux ou à la sécurité sociale, il faut se faire comprendre. Hein, vous ne pouvez pas dire c'est des cons qui ne comprennent rien. Vous êtes obligé de vous faire comprendre et de se mettre presque à leur portée en disant quel langage ils parlent, ces gens-là. Il faut parler leur même langue. Donc c'est là qu'on s'intéresse au lecteur et je trouve que c'est très intéressant. On écrit toujours, si on veut être publié, on écrit pour un lecteur. Après, j'ai fait beaucoup de journalisme essentiellement d'entreprise, hein, puisque j'ai créé une cinquantaine de journaux d'entreprise dans de grandes entreprises françaises, dans la plupart des grandes entreprises françaises. Je ne vais pas les citer. Et ça donne de temps en temps ça fait grincer des dents. Mais c'est comme ça. Et puis, j'ai toujours fait ce travail d'écriture. Et puis, j'écris aussi, effectivement, comme Marie le disait tout à l'heure, moi aussi, j'ai comme ça des émotions ou des choses. Et je ne sais pas, j'ai dû commencer 30 romans.
30 romans, mais oui. Aucun qui n'est fini ?
Non, parce que ça me paraît pas. Je survis si je suis pas publié. Et puis je me dis bon, si c'est pas venu, j'ai fait un autre travail qui a été beaucoup écrire pour d'autres. Et donc c'est pas grave. Mais ça va venir. Je suis en train d'en finir un parce qu'on m'a un certain nombre, y compris d'amis auteurs, qui me poussent à le finir. Donc je pense que je vais en sortir un bientôt.
Ah, ben voilà. Vous nous tiendrez au courant.
Oui, oui. Peut-être l'année prochaine, voilà. Non, parce que j'ai... Et il y a des choses que j'ai écrites, je me rappelle, il y a des textes que j'ai commencé quand je faisais mon service militaire, donc c'était en 72. Et je crois qu'on peut écrire, Marie l'expliquait très bien, on a des bouts de texte comme ça, puis d'un seul coup, ils ressortent et on les finit. Donc peut-être que c'est ce texte que j'ai commencé en 72, je filerai en 2022. Ça n'a pas d'importance. L'écriture, c'est comme une source, quoi. Bon, voilà, il y a des moments où elle coule moins fort, et puis on l'oublie un peu, espère. Puis après, il faut recreuser pour refaire un peu les galeries, pour retrouver les filets d'eau, la source. Puis on la ravive, et c'est bien.
Mais quand on écrit 30 débuts de romans, c'est pour vous faire plaisir au départ,
Non, c'est pas quelque chose qui... Voilà, Marie expliquait bien, sur une émotion, elle s'est mise à écrire des pages comme ça. Mmh. Donc on commence en disant, bah, tiens, il y a une histoire qui vous... Alors, soit on l'entend, soit on voit les images, hein, et puis on se met à la traduire en écrit. Et puis, après, on abandonne parce qu'on a plein de choses à faire, y compris la vaisselle. Donc, et puis on le reprend pas forcément, on se met à faire autre chose, on est pris par tout un tâche de la vie, élever ses enfants, travailler, etc. Et puis on abandonne, ou bien même, des fois on a des doutes, on se dit brof. Et puis le temps passant, des événements de la vie intervenant, on se dit finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, on peut le retrouver beaucoup plus tard et se dire, bah, si, c'était bien, c'était important. Et voilà. Il y a des moments de creux comme ça, des bosses et des creux, comme les vagues et comme les collines. Et voilà.
Bon. Eh bien, Jean, à bientôt. On se dit au mercredi 20 mai à voilà. 16h30 jusqu'à 18h pour le prochain. Les livres ont la parole. Bonne soirée. À bientôt.
À bientôt. Merci.
Checklist, ok, bécane, bye. J'enclenche, claque, ma dynamo. Les cliquetis du pédalier me battent un rassurant tempo. Et ça donne. Faut pas m'arrêter, on m'a dit. Si tu réfléchis, tout tombe à l'eau. Mais cette idée fait son chemin. Que font tous ces cadres à vélo? Mes collègues qui m'encouragent et me relèvent, la crampe qui naît dans mon mollet, les grands espaces entre l'ascenseur et l'écran, le tour du monde en vélo d'appartement. Mais c'est bien ça, et malgré la vitesse, je ne suis pas fou, je l'ai vu le manguer au cœur de l'open space. L'Everest à flanc de frigo, le Niagara dans la fontaine à eau, dans le micro-ondes d'un volcan, le tour du monde en vélo d'appartement. Le tour du monde en vélo d'appartement. We'll be right back.
Et mes enfants qui m'encouragent et me relaient. La crampe qui grimpe dans mon mollet. Les grands espaces entre placards et brosses à dents, le tour du monde. En vélo d'appartement.
Wapitam pam papoué, ti pam pam pam, pam papoué. Wapitam pam papoué, ti pam pam pam, pam papoué. Je porte à l'auriculaire une chevalière 1.4 carat, large comme ma face. Dit que je prends des airs, je fais des manières, mais quand je donne ma main, tu l'embrasses. Quand mes fesses plissées s'enfoncent dans le cuir, mon pouvoir est bien en place et je lâche pour moi-même un sourire. Aussi loin que me ramènent mes souvenirs sur terre, j'ai toujours rêvé d'être un gangster. Un affranchi, c'est tout réfléchi. Et je remercie Martin Scorsese et Joe Pesci. Nous célébrons toute votre classe éternelle lors de nos joutes au petit vin blanc sous les tonnelles. Wapitam pam papoué, ti pam pam pam, pam papoué. Familles du milieu, les règles sont strictes et chacune a son territoire de jeu. Inutile pour un chanteur à fond de noisilles secs de vouloir faire la nique aux voix surpuissantes du Québec. Un jour un frimeur de Passy se mit à faire du ragga dub style. Des gars de Saint-Denis sont venus chez lui et l'ont criblé de balles vocales. Inutile de jouer l'imposture, les faux Django se prennent des cartouches de riff manouche à coup sûr. Élevé au Godfather 1, 2, 3. Jamais vu de vrai gun ailleurs qu'au cinéma, au casino, en costard mauve, un freak dans la mafia, philosophie de Sicile, omerta, mes amis, mon clan, mes frères, mes Goodfellas, nos guitares sont des famas et nos basses font trembler les bougnards quand dans les brumes du quartier latin. On entend se friter les petits chanteurs du quotidien. Je porte sous mon suaire un complet gris clair et les fils de soie recouvrent ma carcasse. Avoir l'art et la manière de quitter la terre, pleurer par la maman et toucher par la grâce. Et mon âme libérée retourne dans la lune. Les étoiles ont trop la classe et je restitue mon corps sans rancune. Aussi loin que me mène mon chemin dans l'univers, transporté par des airs de gangster de la chanson française d'après-guerre.
I picture something, it's beautiful, it's full of life and it is all blue. I see a sunset on the beach, yeah, it makes me feel calm. When I'm calm, I feel good. When I feel good, I sing. And the joy it brings makes me feel